Alors, André, les mots québécois, y aller avec le sens et l'origine de quelques mots utilisés au Québec et ailleurs dans la francophonie.
Oui, tout à fait. Avant tout, j'aimerais mentionner que parmi mes nombreuses sources, le Dictionnaire historique du français québécois m'a été très utile pour rédiger cette chronique, ainsi que le site Internet tlfq.org, Trésor de la langue française au Québec. On débute avec le mot « dispendieux ». C'est d'actualité, ça, surtout avec l'inflation alimentaire. Au Québec, on l'utilise pour dire qu'un bien ou un service coûte cher, je dirais même très cher.
Ouais.
Alors qu'ailleurs en Europe, on l'utilise pour dire d'un bien qu'il occasionne des dépenses ou qu'il est coûteux à entretenir. Oui, c'est un sens un peu différent. Par exemple, on pourrait dire une voiture dispendieuse, ce n'est pas nécessairement une voiture qui coûte cher à l'achat, mais une voiture qui coûte cher à entretenir. Il semble aussi que dispendieux, c'est rarement employé par les francophones dans les pays européens. On ne dit pas ça souvent,
non.
Si le sens est très précis.
Au Québec, on dirait qu'on a peur du mot « cher », ça coûte cher.
Ouais,
dispendieux,
ouais.
C'est comme si c'était plus,
chic, peut-être.
Finalement, ce n'est pas tant.
Voilà.
Bon, espadrilles maintenant.
Oui, c'est des chaussures qui sont devenues très populaires chez nous, à la mode. Et au Québec, à l'origine, les espadrilles, c'était vraiment des chaussures destinées spécifiquement au sport. Aujourd'hui, tout le monde les porte. Contrairement aux Français de France, où les espadrilles, ça désigne des chaussures de détente en toile, souvent utilisées l'été, en particulier à la plage, mais plus que ça, j'imagine. Alors, nos espadrilles, ce qu'on appelle espadrilles ici en France, c'est ce qu'on appelle des baskets.
Oui,
comme dans basketball.
Quand il y a un mot anglais, on l'utilise.
Tout à fait, on ne manque pas une occasion. Mais qu'en est-il de l'origine de l'espadrille en toile, justement? Elle remonte au 12e siècle dans le Pays basque.
Ah oui, si loin que ça.
Tout à fait. Pays basque, je le rappelle, région du nord-est de l'Espagne et du sud-ouest de la France. En Catalogne aussi. C'était une chaussure populaire chez les paysans, fabriquée avec une semelle en corde de chanvre ou de jute tressée et une structure en toile. Voilà.
On ne porte pas des espadrilles de ce temps-ci. Bien, au bureau peut-être.
Peut-être au bureau.
Des baskets ou des espadrilles.
Le barda.
Ouais.
Il me semble que nos grands-mères disaient ça.
C'est très imagé.
Tout à fait. Un mot utilisé au Québec, aussi ailleurs dans la francophonie, qui nous vient de l'arabe berda. Pour désigner...
Et non Bertha.
Et non Bertha. B-E-R-D-A, accent circonflexe A. Pour désigner l'équipement d'un soldat porté sur son dos... plus spécifiquement, les hommes de troupes qui partaient pour de longues périodes avec tout leur attirail. Ça me rappelle des scènes de films. Avec le temps, barda...
Genre? Quel genre?
Le pont de la rivière Kouai, des vieux films.
Oui.
Tous les soldats qui marchent là, avec leurs gamelles, leurs sacs de couchage.
Avec leur barda,
Leur barda. Avec le temps, barda, ça a pris les sens suivants. Alors d'abord, par analogie, c'est un ensemble d'objets variés qu'on emporte avec soi, par exemple dans un déménagement. On déménage avec notre barda. Ou par extension, un ensemble d'objets hétéroclites accumulés en désordre. Et les Français diraient de façon familière le bazar ou le bordel.
Mais nous, on dit « regarde pas mon barda ».
Oui, c'est ça, exact. Puis on peut aussi l'employer au sens de grand ménage du printemps, faire son barda,
vous
avez déjà entendu ça,
ou
le grand
barda.
Et finalement, ça peut aussi désigner un grand bruit ou un vacarme qu'on peut facilement relier au bruit fait par une troupe de soldats en marche avec leur attirail. Et ça a donné naissance au verbe bardasser, d'ailleurs.
C'est un mot qui ratisse large.
C'est un mot qui ratisse très large. Un autre mot qui ratisse large, boucane. Dérivé du verbe « boucaner », qui lui-même vient d'un mot des Premières Nations des Antilles, « bocaem », qui désigne une grille en bois pour fumer la viande. « Boucaner », ça a aussi donné naissance au mot « boucan », pour parler de la cabane en bois utilisée pour le boucanage de la viande ou du poisson, et aussi au mot « boucanier », pour nommer un chasseur aventurier des Antilles d'origine européenne, donc un colon européen, qui fumait le produit de sa chasse afin de le conserver, avant de désigner par extension les pirates qui écumaient les mers des Caraïbes, les boucaniers, les flibustiers et autres termes similaires. Fait que ça aussi, ça ratisse large, comme vous voyez. Puis, le mot « boucan » lui-même, il semble qu'il soit resté populaire essentiellement au Canada puis en Louisiane, pour nommer la fumée, mais vraiment au sens large, tout type de fumée, on va dire de la boucane.
Allô?
Allô? On finit avec ça.
Oui, allô?
Pour cette phrase. Oui, allô? Pour répondre au téléphone, ça vient du hongrois « allom » pour dire « j'entends » ou « allod » pour dire « tu m'entends ». Et ça a été utilisé la première fois par l'inventeur hongrois Tivadar Puskás lors des premiers tests d'échange téléphonique en 1877. Et le terme s'est donc francisé pour devenir « allô ».
Avec un accent circonflexe sur le « o ».
Oui, il y a deux façons de l'écrire maintenant, mais la façon originale, je pense, c'est avec l'accent circonflexe. C'est un terme qui sert tout simplement à attirer l'attention, à vérifier que le circuit de communication fonctionne bien.
Allô, la Terre.
Allô, la Terre. Alexander Graham Bell, qui avait inventé le téléphone un an plus tôt, en 1876, proposait plutôt le terme « ahoy », A-H-O-Y. Ah. Ça, ça n'a pas pris.
Non.
Puis, saviez-vous, Hélène, que le « allô » utilisé pour se dire « bonjour », c'est vraiment, vraiment spécifique au Québec?
Ah oui? Non, je ne savais pas.
Ça ne se fait pas ailleurs dans la francophonie.
Oui, allô?
Alors, oui, allô.
Allô, allô. Qu'est-ce que vous vouliez dire?
Que ma mère s'était fait reprendre. Ça va bien. Quand elle était là en France, parce qu'elle disait allô aux gens, et quelqu'un lui avait dit, non, mais allô, c'est au téléphone.
Ah,
et c'était devenu une de ses phrases fétiches.
Tout à fait.
Bien, on va retenir ça. Et maintenant, André, avec le sens et l'origine de quelques mots spécifiques au Québec.
Oui. Le caribou.
Oui, allez avec ça.
On y va avec ça. Le caribou. Pas l'animal, mais le breuvage.
Ah, oui.
Un mélange de vin et de spiritueux servi chaud la plupart du temps. Ça vient de la langue des Micmacs, le mot caribou, et ça signifie celui qui creuse la neige, bien sûr, en référence à l'animal. Alors, pourquoi on a nommé la boisson ainsi? Parce que là, les gens disent qu'elle était composée de sang de caribou et de l'alcool. Ça devait être raide un peu, ça.
Il me semble que c'est pas buvant.
Ouais, faut croire que les Autochtones, les Premières Nations, avaient des goûts différents. Mais pour nous, pauvres immigrés que nous étions, heureusement, la recette a évolué avec le temps, les différentes vagues d'immigration au Québec. La consommation de vin chaud épicé a fait partie des coutumes. Et le caribou a connu une popularité croissante à partir des premières éditions du Carnaval de Québec à la fin du 19e siècle.
C'est encore à la mode.
Oui, tout à fait. Puis, dans les années 60, à la voûte chez Tipper, buvette célèbre du quartier Saint-Sauveur.
On se retrouve chez Tipper.
On se retrouve chez Tipper.
On va aller boire du caribou.
On va aller boire du caribou. Alors, la recette de caribou telle qu'on la connaît aujourd'hui, c'est là qu'elle a été mise au point, avec du brandy, de la vodka, du xérès et du porto. Et ça a été rapidement adopté par les carnavaleux pour la sensation de chaleur dans ces froides journées carnavalesques.
Il ne faut pas en boire trop, c'est
traître. Non, ça tombe sur l'estomac un peu, honnêtement.
Ouais. Et on a mal aux cheveux le lendemain.
Oui, exact.
On n'a pas le goût d'aller glisser.
Après ça, oui, j'allais dire, pour se dégriser, une bonne promenade en toboggan, traîneau de bois sans patin.
Ah, je pensais que c'était un genre de crazy carpet, un toboggan.
Non. Souvenez-vous, dans notre enfance, là, même on avait la version en aluminium, c'était recourbé vers l'avant.
Oui,
la version originale était
en bois. Qu'on appelait une traîne sauvage.
L'enchaîne, exactement. Mm. C'est le toboggan. Ça vient aussi du Micmac, Tepakan, et que les colons français ont transformé en tabagan, et que les Anglais ont transformé en toboggan. Donc, on est passé du Micmac au français, à l'anglais, et on est revenu avec le mot anglais qu'on a francisé.
C'est vraiment passionnant.
Tout à fait.
Vous ne nous enfargez pas dans les fleurs du tapis.
J'essaye. En vieux français, on disait « enfierger ».
Ah
bon,
oui?
Mettre des fierges, c'est-à-dire des entraves ou des enfarges aux pattes ou au cou d'un animal pour restreindre ses mouvements ou l'immobiliser. Et au fil du temps, ce verbe-là, qui est devenu « enfarger », ce serait limité au Canada français, probablement vu son caractère rural. Alors, par extension, le sens est devenu celui qu'on connaît principalement de nos jours, c'est-à-dire faire trébucher quelqu'un, que ce soit intentionnel ou pas, ou trébucher soi-même, au propre ou au figuré, comme vous le dites vous-même. Et la tuque, pour terminer, la tuque, que plusieurs Français appellent tout simplement un bonnet. Hein, vous êtes peut-être déjà fait dire ça. As-tu ton bonnet?
Oui.
Mais j'ai jamais compris.
Nous, on parle de bonnet de bain, mais
oui,
en hiver,
bonnet
c'est la tuque qu'on porte. Oui.
Au 16e siècle, des bonnets de laine rouge fabriqués principalement en France étaient très populaires au Moyen-Orient, d'où leur nom de bonnet à la turque.
Ah!
Aha. Et le marché étant porteur, bien, la France s'est lancée dans la production à grande échelle, pas seulement pour le Moyen-Orient, mais aussi pour la Nouvelle-France, où on a rapidement adopté ce bonnet. Et on a créé comme ça le néologisme TUC.
Avec les grands froids qu'on a connus ces derniers temps, la TUC est de mise.
La TUC est de mise.
Ouais. Même s'il va faire doux, là, on garde la TUC quand même.
Oui. Une fois qu'on l'a adopté, oui. On la loge plus.
Merci beaucoup, André, pour tous ces mots québécois. On a appris plein de choses grâce à vous. On se retrouve dans deux semaines.
Absolument.